Salut les sportifs, je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Nakan. Et une fois n'est pas coutume, je retrouve mon coéquipier de podcast, Hermano. Salut Hermano.
Salut Greg, salut à toutes et à tous.
Hermano, j'ai quelques questions à te poser par rapport à tes connaissances en métaphysique. Est-ce que tu es prêt?
Oh, ça remonte à loin, et comme tu sais, je suis plus tout jeune, mais ok, on va essayer.
D'accord. Est-ce que la théorie de la relativité, ça te dit quelque chose?
Ouais. C'était un certain Einstein ou un truc comme ça qu'il a élaboré.
Ouais, alors ça, déjà, t'es sur une bonne piste. Ensuite, si je te parle de 1 millionième de seconde, est-ce que t'arrives à te représenter un petit peu la durée de temps que j'exprime là?
Ouais, je vois à peu près 10 puissance moins 6.
et ensuite.
T'as vu, c'était histoire de sortir ma science.
Je vois que t'es hyper calé, quoi. Et si maintenant je te dis qu'on va se placer à 20 000 km d'altitude, on va mettre en œuvre la théorie de la relativité, on va embarquer une horloge atomique au radium qui a une précision à 1 milliardième de seconde, et que tout ça, on va le mettre en application pour nous situer sur la planète. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose?
Bah là, je te répondrais, il me semblait que tu t'appelais Greg, alors s'il te plaît, Elon Musk, sors de ce corps.
Eh ben non, je vais te dire une chose, c'est que c'est bien plus ancien que Elon Musk, parce que ça a été développé initialement par l'armée américaine depuis les années 60, cette technologie, et puis on la connaît aujourd'hui sous le nom de GPS.
Ah oui, là effectivement ça me parle un petit peu.
D'accord, alors effectivement le GPS, on a peine à s'imaginer, hein, mais c'est des satellites qui tournent à 20 000 km au-dessus de nos têtes, à 14 000 km/h, et puis à cette distance et à cette vitesse, les horloges atomiques que ces satellites embarquent, eh bien, ont une différence d'écoulement du temps liée à la théorie de la relativité d'Einstein, et donc du coup il faut appliquer une correction sur le temps écoulé dans le satellite par rapport au temps écoulé sur Terre, parce que le temps ne s'écoule pas à la même vitesse.
Bon, là, je pense que tu as perdu tous nos auditeurs, enfin, une bonne partie de nos auditeurs, donc il va falloir que tu nous détailles tout ça. Moi, je vois à peu près, parce que la théorie de la relativité, c'est un truc qui m'intéressait beaucoup quand j'étais au lycée avec un très, très bon pote à moi, mais je pense que tout le monde ne dormait pas avec un livre de chevet, enfin, qui ne s'endormait pas avec un livre de chevet qui détaillait cette fameuse théorie de la relativité. Donc, s'il te plaît, Greg, il va falloir que tu nous fasses des explications de texte.
Oui, mais en fait, l'idée, c'est pas de partir dans un épisode entièrement mathématique, hein. C'était juste pour placer un petit peu la complexité du système GPS et puis à quel point ça peut être compliqué au niveau du fonctionnement. Mais on va rapidement entrer dans une application beaucoup plus concrète, parce que je me souviens des premiers épisodes de la première saison du podcast dans lequel tu courais un marathon.
Ça remonte.
Et où tu te plaignais de ta montre Garmin qui t'indiquait une allure complètement erronée en se basant sur les données GPS qu'elle pouvait exploiter.
Ouais, mais ça, tu sais bien, c'était pour le cirque, c'était pour la fête du podcast, puisque bien évidemment, je sais que les données ne sont pas bonnes, comme je sais, et ça me rappelle aussi un bon vieil épisode que l'on a fait, qu'il ne faut pas se fier aux algorithmes d'entraînement, n'est-ce pas, monsieur?
Oui, alors on a parlé avec notre consultant suprême, Denis Boucher, du fait que les algorithmes d'entraînement qui nous disent entraînez-vous plutôt au seuil, plutôt en endurance ou plutôt en haute intensité, eh bien, il ne faut pas forcément s'y fier tout le temps parce qu'ils sont basés sur des statistiques mathématiques qui ne correspondent pas forcément à l'être humain qu'on est. Mais il y a également beaucoup de personnes qui se fient corps et âme aux données GPS de leur montre de sport, et en particulier pour la course à pied. Et on va élaborer un petit peu le sujet dans cet épisode, mais c'est souvent pas une bonne idée.
Alors, juste avant qu'on aborde cet épisode, moi j'aimerais savoir si les accéléromètres sont aussi fiables que ces fameuses petites puces GPS que l'on embarque dans nos montres connectées de sport.
Eh bien écoute, moi je me souviens de ces accéléromètres et j'ai une image de ces accéléromètres qui étaient des pods immenses qu'on mettait sur nos chaussures, qui devaient bien rajouter 60 ou 80 grammes sur la godasse quand on
sur
partait.
Sur un pied, oui, hein, ça sur... fait que l'on clopinait très souvent.
Voilà, sur un pied, c'était au début des années 2000 quand on avait le balbutiement des données GPS dans les montres, mais pas encore dans toutes, et puis qu'on se trimballait ces foot pods là, et on se souvient d'une précision qui était largement aussi aléatoire, voire plus, que les données GPS de nos montres actuelles. Donc je sais pas si t'as cette image là de l'accéléromètre, ils vendaient pas du rêve.
Ouais, moi j'ai à la fois cette image-là de l'accéléromètre sur une des premières Polar que j'ai eues, mais aussi à peu près le même boîtier, mais qui se mettait cette fois-ci soit à la ceinture à l'avant, soit à la ceinture à l'arrière, qui embarquait aussi un GPS. Je ne sais pas si tu as connu ça aussi, Greg.
Oui, oui.
C'était notamment les boîtiers GPS pour les montres Timex, pour ne citer que cette marque-là. Et je me demande comment est-ce qu'on pouvait courir avec ça. C'est un petit peu comme l'histoire du matériel qu'on embarque sur le vélo, dont on a aussi parlé, et où finalement on arrive à la conclusion qu'avant de chercher à gagner quelques grammes sur le vélo, fallait peut-être déjà chercher à gagner quelques grammes dans le bide. Là, on s'embêtait parfois à pas partir avec une bouteille d'eau parce que c'était trop lourd, mais on partait avec un boîtier GPS accroché à la ceinture qui pesait 200 grammes.
Ouais, effectivement. Avant que les montres intègrent les circuits GPS qui se sont bien miniaturisés depuis, effectivement, on déportait toutes cette électronique dans un boîtier qu'on mettait comme brassard ou comme tu l'as dit à la ceinture. Ça prenait une place phénoménale, ça prenait un poids et un encombrement absolument pas confortable du tout, et puis ça offrait une précision qui était absolument infecte, quoi.
Ouais, c'est ça. Bon, mais recentrons le débat. Aujourd'hui, on a décidé de parler du GPS, des petits circuits GPS que l'on intègre dans nos montres électroniques. Enfin, pas que l'on intègre, que les fournisseurs intègrent, que les constructeurs intègrent dans nos montres. Donc maintenant, c'est bien miniaturisé, ça pèse pas très lourd. Mais justement, est-ce que ça pose pas un problème en termes de qualité du GPS ? Est-ce que les données qui nous sont remontées par le GPS sont très fiables ? Je pense que peut-être une première chose qu'on va pouvoir mettre en parallèle, ce serait utiliser une montre avec GPS sur un vélo versus un bon vieux compteur à aimant dans lequel on introduit la distance de la roue, la distance parcourue par la roue, et où là, normalement, en théorie, à 99,9%, les valeurs sont fiables. Donc, si on compare les deux, quel est le résultat ?
Eh bien, écoute, sur un vélo, je veux dire, il n'y a pas photo. Si ta configuration de taille de roue est bonne, est configurée correctement, et puis que ton aimant il est positionné correctement face à ton capteur, tu auras une précision qui sera diabolique, ça c'est sûr. Le seul problème que tu pourrais avoir, c'est quelqu'un qui fait du VTT et qui fait de nombreux sauts dans sa sortie. On sait que quand on est en l'air, eh bien, la roue va se mettre à tourner soit plus vite, soit moins vite. Et c'est la seule source d'erreur qu'on peut imaginer sur ce genre de capteur. Et elle est vraiment infime. Sinon, on a vraiment une mesure de la distance qui est diablement précise. Mais les derniers capteurs sur les roues pour la vitesse à vélo ne sont plus basés sur un aimant, mais sur un accéléromètre. Et on les place sur le moyeu de la roue. Et la précision n'est pas moins bonne, mais simplement la finesse de mesure est peut-être un tout petit peu moins spécifique. C'est-à-dire que sur l'espace d'une seconde, la donnée ne sera pas forcément super pertinente. Mais lissée sur 10 secondes, ce sera bon. Donc la distance totale qu'on va obtenir à la fin de notre sortie vélo sera toujours aussi précise. Par contre, la vitesse instantanée sur le vélo pourrait souffrir un tout petit peu. Mais bon, sur une moyenne de 3 secondes, on aura une vitesse qui sera correcte.
Ouais, donc moralité, il vaut mieux faire des sorties de 200 bornes qu'une sortie de 15 km.
Ouais, mais la précision ne devrait pas changer entre 15 km et 200 bornes sur... Enfin, quel que soit le capteur utilisé. Alors qu'une sortie de 200 km avec un GPS, si ton GPS te bouffe chacun des virages que tu vas faire, eh bien, tu peux te retrouver vite avec, sur 200 km avec facilement 1,5 km, 2 km de marge d'erreur sur un GPS qui a fonctionné correctement.
Alors justement, peut-être qu'avant d'aller un petit peu plus loin dans le débat, tu pourrais, puisque c'est toi la caution technique de notre podcast, pour les auditeurs qui, je ne le comprendrai pas, mais qui ne connaissent pas le site nakan.ch, je vous invite à aller regarder. Greg s'amuse à faire tout un tas de tests et à décortiquer tout le matériel que l'on peut utiliser quand on fait du sport. Et donc du coup, comme c'est vraiment toi la caution technique, j'aimerais que tu nous expliques comment fonctionne le GPS de nos montres. Est-ce que... c'est pas une question toute bête. Est-ce que nos GPS de vélo intègrent une cartographie et puis nous suivent sur une cartographie et après ils font des calculs? Il y a un grand turc d'Amazon qui s'amuse à faire des calculs pour savoir quelle distance on a parcouru ou même quelle vitesse instantanée on roule, ou c'est un tout autre algorithme?
Non, alors...
Ou c'est peut-être même de la triangulation entre trois GPS qui viennent calculer notre position. Enfin, il faut que tu nous dises tout ça, Greg.
Oui, alors comment ça marche? large. On en a parlé au tout début des aspects extrêmement scientifiques. On va essayer d'éluder un petit peu cette question avec quelque chose de beaucoup plus concret et pratique. Le système, on appelle ça GPS, mais en fait le GPS n'est qu'un des systèmes de géolocalisation mondiale par satellite. On parle de GNSS en anglais pour Global Navigation Satellite Service. Donc en fait, le GPS n'est qu'une des constellations qui sont disponibles. Aujourd'hui, on compte 4 constellations qui sont disponibles à travers la planète entière. C'est GPS, donc, qui est un système développé à la base par l'armée américaine qui compte 31 satellites et puis qui a une précision moyenne dans des conditions optimales de 3 mètres au niveau du positionnement n'importe où sur le globe. On sait que le GPS fonctionne mieux à l'équateur qu'au pôle, mais en général, sa course à pied du soir, on ne va pas la faire au pôle Nord. On a GLONASS qui est un système russe qui a été mis en service pour la première fois en 1996, qui a été mis hors ligne en 1998 à cause de problèmes de budget et qui a été remis en service par la Russie en 2006. Ce système, il utilise 24 satellites. Il a une précision moyenne de 5 à 8 mètres dans des conditions optimales. Et puis, bien évidemment, en tant qu'Européen, on a la fierté maintenant, en 2020, d'assister au dernier lancement à la fin de l'année de la constellation Galileo, donc, qui est un effort de tous les pays de l'Union Européenne, qui compte 24 satellites, et puis qui, une fois que la constellation sera complète, eh bien, proposera une précision de 4 mètres. Donc, on voit qu'on est moins précis que la dernière génération de GPS, mais vraiment pas très très loin. Pour le service ouvert au public, on sait que Galileo a un service professionnel qui est ouvert aux services de recherche, de secours, et puis aux services aériens et maritimes qui sera plus précis que ça. Et puis enfin, on a, pour être complet, le système Beidou, génération 3, qui est satellisé par la Chine, qui compte 27 satellites, et puis qui a une précision moyenne dans des conditions optimales de 10 mètres. Donc voilà, tout ça c'est des GNSS et en général maintenant nos montres ou nos compteurs cyclistes qui utilisent une puce GPS exploitent entre un et deux de ces systèmes simultanément pour augmenter la fiabilité et la précision de la localisation. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on peut les coupler et comme ça quand notre appareil regarde le ciel, s'il a une couverture qui est trop faible en satellite dans un des systèmes, il peut compenser son acquisition de données avec des satellites d'une autre constellation. Ça, c'est la première chose qu'on va comprendre. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les constructeurs de montres et de compteurs GPS sont sous pression par les utilisateurs et par le marché d'avoir une autonomie qui est la meilleure possible. Et le GPS, qui capte des signaux qui sont envoyés par des satellites à 20 000 km, eh bien, ça consomme de l'électricité. Et donc, il y a une course entre les différents fabricants de puces intégrées pour capter le signal GPS à celui qui consommera le moins. Et actuellement, celui qui est leader du marché sur ce segment-là, c'est Sony, qui, depuis 2 à 3 ans, équipe quasiment 100% des montres cardio-GPS de Garmin, Polar, Suunto et Coros. Donc, vraiment, qui couvre quasiment
qui couvre 95%
tout le marché.
Du marché.
Exact. Et cette puce, pour les personnes qui ont des notions en électronique, elle ne consomme en moyenne que 6 milliwatts.
Ok.
Donc, c'est une consommation qui est extraordinairement faible par rapport aux autres puces qui étaient utilisées avant dans ces appareils. La contrepartie, c'est qu'on consomme moins de courant, elle a une précision qui est un petit peu moindre.
Donc, à choisir entre la peste et le choléra. Enfin, plutôt entre la précision ou courir avec ton powerbank qui pèse lui aussi 500 grammes. Et donc, on se retrouve dans la configuration que l'on évoquait avant avec la petite excroissance que tu vas mettre à ta ceinture pour pouvoir avoir assez d'autonomie sur un trail ou même sur un Ironman.
C'est ça. Donc, maintenant, on a fait le choix, le compromis entre une certaine précision et une certaine autonomie. Et il faut savoir aussi que même si toutes les marques et tous les modèles utilisent la même puce, parce que c'est le cas aujourd'hui, quasiment, il y a une grande différence de sensibilité aux signaux GPS entre les modèles. Pourquoi ? Parce que s'ils utilisent la même puce, ils n'utilisent pas la même antenne. Et l'antenne est un des facteurs aussi extrêmement importants des données de précision d'une montre. Et plus la montre est grande et propose une surface qui est large, plus on peut lui intégrer une antenne qui est imposante et donc qui va capter de meilleures qualités de signaux.
Alors, est-ce qu'il y a uniquement l'antenne qui joue, mais ou est-ce qu'il y a aussi le matériau de fabrication ?
Alors évidemment que le matériau du boîtier de la montre impacte aussi. Si tu as une lunette en titane avec un fond de boîtier en acier et puis un verre qui est traité à l'aluminium, tu vas avoir des interférences de fou dans une cage de Faraday qui sera tout sauf optimale pour capter un signal GPS. Et paradoxalement, sur les montres pas chères entièrement en plastique, eh ben, tu auras un rapport signal-bruit qui sera excellent et donc du coup un positionnement GPS qui sera meilleur. Donc en général, une montre entièrement en plastique qui ne coûte pas forcément très cher aura un bon signal GPS, puis une belle montre bien en acier inox ou alors en titane ou alors voilà, avec un bon boîtier en métal bien résistant qu'on va payer bien cher, elle aura un signal GPS pourri.
Donc, bon, alors... J'ai envie de te dire que ça me dérange peut-être un peu moins, parce qu'à la limite, c'est moins inconfortable de courir avec une antenne le long de la cuisse que de courir avec un gros boîtier de 500 grammes que tu mets à la ceinture. Qu'est-ce que t'en penses ?
Alors, après, c'est clair. Maintenant, la personne qui va payer 1000 balles sa montre, elle aura un petit peu les boules de savoir que celui qui a payé 150 balles pour son truc en plastoc, et il va lui fournir des informations qui seront plus précises. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, bien sûr. Ouais. Mais donc, c'est-à-dire qu'avec une Apple Watch, avec un boîtier en plastique, on aura un meilleur signal GPS qu'avec une Fenix 6 avec un beau boîtier en métal et un verre cristal.
Alors, en théorie, oui. En tout cas, une meilleure donnée GPS, peut-être pas, mais tu auras un meilleur rapport signal-bruit sur ton antenne. Donc déjà, ça va aider à avoir un positionnement qui sera meilleur.
Ok. Bon, après, j'imagine que les fabricants sur de tels produits ont aussi pensé à cette donnée-là. Et comment, est-ce que tu sais comment est-ce qu'ils le contournent ? Parce que ça, c'est la théorie que tu nous donnes. Avec un gros boîtier en métal, un verre traité en aluminium, etc., tu seras dans une bonne grosse cage de Faraday. Et donc, t'auras peut-être tu capteras peut-être un signal avec beaucoup plus d'interférences que sur une montre en plastique. Mais est-ce que tu sais comment est-ce que les fabricants ont contourné ou ont essayé de contourner ce problème-là ?
Alors, évidemment qu'il y a des algorithmes qui vont se mettre par-dessus le signal brut de ta puce GPS et de ton antenne. Parce que, bon, on va la faire courte, mais il y a une horloge atomique redondante qui est dans chacun des satellites GPS, qui a une précision de l'ordre de 25 nanosecondes, c'est-à-dire 25 milliardièmes de seconde. Et les opérateurs au sol des systèmes GPS, GLONASS, Galileo et autres, s'assure que chacun des GPS est synchronisé avec une précision de 25 milliardièmes de seconde chacun entre eux, pour avoir une précision suffisante. Et puis ensuite...
Donc, 10 puissance moins 9, hein, c'est pour ceux qui...
Voilà. Et puis ensuite, ta montre, qui utilise au mieux une horloge à quartz améliorée, eh bien, elle va devoir se synchroniser avec ces horloges atomiques qui sont dans les GPS pour pouvoir parler la même langue. Parce qu'il faut qu'elle soit calée sur la même horloge. Parce que le principe même du fonctionnement de GPS, c'est de récupérer un signal d'un satellite qui contient une information de temps dedans, et puis, connaissant la vitesse de la lumière, donc 300 000 km par seconde, on va déduire la distance qu'il y a entre notre récepteur et le satellite en fonction du temps que le message a mis pour venir jusqu'à nous. Donc, en gros, ça veut dire que si nos horloges ne sont pas synchronisées et qu'il y a un écart de 1 millionième de seconde, eh bien, on a une erreur de positionnement de 300 mètres.
Ouais.
Et un utilisateur de montre GPS, il gueule bien, bien avant d'avoir un écart de 300 mètres. Parce qu'à partir de 25 mètres d'écart, il commence à faire la tronche.
Bah, surtout que je ne sais pas s'il y a certaines auditrices ou certains auditeurs qui ont déjà vécu des courses avec des potes et même avec la même montre et le même modèle, arriver à la fin de la course alors qu'on est parti en même temps, on a couru en même temps, donc on a... en théorie fait la même distance et on a à l'arrivée se retrouver avec 100, 200, 300, 500 mètres d'écart, je peux comprendre qu'il y en a qui hurlent un peu.
Oui, et alors effectivement on a des problèmes de ce type là qui se passent en permanence en électronique et des erreurs et des aberrations qui se passent en permanence. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que la donnée brute qui va sortir de notre capteur GPS de la montre, il va être comparé au point qui ont été réalisés dans les secondes qui précèdent. Et en fait, si on a un point, puis que le point suivant, il est situé à 1m50, puis que le point suivant, il est situé à 1m50, puis que le point suivant, il est situé à 300 mètres, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va se dire, ce point-là, il est pourri, donc on va l'éluder, et on va passer au point suivant, et ainsi de suite, et on va ainsi, ce qu'on appelle lisser la courbe, dans un langage mathématique, pour ne pas afficher ces aberrations qui vont dans tous les sens, puis qui vont nous rajouter des kilomètres supplémentaires sur une sortie de 20 bornes.
Alors, ce qui pourrait éventuellement expliquer que sur une sortie aussi longue soit-elle, en vélo ou en course à pied, on affiche une distance sur la montre et une fois qu'on synchronise, on a une distance légèrement différente.
Alors ça peut être un recalcul mathématique de la trace qui est fait par la plateforme en ligne dans les serveurs cloud, donc une optimisation supplémentaire de la trace, et ça c'est une spécialité qui est connue hein, chez Strava par exemple, qui aime bien reprendre toutes les données et les reprocesser une bonne fois avec leurs propres algorithmes pour parce que eux savent mieux que tout le monde comment calculer une trace GPS, et donc du coup ils le font. Donc effectivement, certaines plateformes vont faire ce genre de choses, mais par exemple, chez Polar, la trace qui était enregistrée par la montre, qui va être synchronisée dans l'interface de Polar Flow, eh bien Polar va l'utiliser telle quelle, parce qu'il va faire, enfin, il va partir du principe que les données qui ont été processées par les circuits intégrés de la montre ont fait le job, et puis que la donnée, elle est comme elle est, quoi.
C'est quand même pas super rassurant tout ce que tu nous racontes, Greg. Du coup, comment est-ce qu'on peut être certain de sa vitesse instantanée, de sa vitesse moyenne, de la vitesse, de la distance instantanée que l'on parcourt, de la distance totale de la sortie qu'on a fait? Comment est-ce qu'on peut se comparer d'un jour à l'autre? J'imagine que tu as parlé d'interférences dues à la montre, dues au boîtier, mais on peut aussi avoir des interférences dues simplement à la météo, peut-être dues à ces fameux orages solaires, comment est-ce qu'on peut faire confiance à toutes ces machines-là?
Alors, déjà, la question de savoir quel est le degré d'erreur acceptable pour une montre GPS, c'est...
Elle dépend de l'utilisateur, non?
Oui, non, mais qu'est-ce qu'on peut espérer comme étant une bonne donnée par rapport à une donnée qui n'est pas bonne? Parce qu'il y a bien un moment, il va falloir trancher. On sait qu'on ne peut pas avoir une donnée précise absolue, mais à partir de quelle marge d'erreur on peut accepter ou pas le système. Et il y a une étude qui a été publiée récemment, donc au début de cette année 2020, et qui a fait un petit peu de bruit, et que j'ai notamment relayé sur les réseaux sociaux de Nakan.ch, qui a été réalisée par l'Institut du sport de Macolin à Bienne, qui a évalué plusieurs montres GPS dans plusieurs conditions, et puis qui ont fait une moyenne de distance, et qui ont conclu, selon des données standardisées, que 5% d'erreurs, c'était acceptable, au-delà, c'était pas acceptable. Et puis là-dedans, il y a une montre qui est d'une ancienne génération, qui utilise une ancienne génération de chipset GPS, qui est la Polar V800, qui est sortie première, et plus précise montre du marché. Ça, c'était une donnée, c'était un test qui a été réalisé sur plusieurs types d'activités, avec une seule personne qui réalisait le même test de manière récurrente avec plusieurs montres, et puis qui a comparé les données. Et il y a une autre étude qui a été faite aux États-Unis, qui, par contre, elle, c'est une étude d'accumulation de données sur le terrain, c'est-à-dire qu'on a demandé aux participants de plusieurs grands marathons de fournir les données GPS de leurs montres pour les compiler dans une étude. Et ce qui est curieux, c'est que dans cette étude-là, la Polar V800, qui était ressortie comme vraiment la meilleure dans la première étude, eh bien, est ressortie comme une montre très moyenne dans la seconde.
Mais c'est normal, Polar, c'est pas américain.
Voilà, et la première étude a été financée par...
Garmin.
Par Polar. Et donc, la V800 est sortie première. Et dans l'autre, qui est une étude indépendante d'une université, cette montre-là était tout de suite un petit peu moins bonne. Mais en fait, ça ne veut pas dire que cette montre, elle est bonne ou mauvaise. Ça veut dire que le GPS, il a un jour ça va, un jour ça ne va pas. Et puis sur une autre montre, l'orage solaire n'aura pas eu le même effet que sur l'autre. Le signal sera meilleur. Et c'est-à-dire qu'au niveau du GPS, il y a très très peu de répétabilité dans les résultats d'un test. C'est-à-dire qu'un jour, une montre, elle va te donner une distance inférieure, un jour, elle va te donner une distance supérieure, un jour, elle va avoir une précision de 3%, et un jour, elle va avoir une précision de 10%. Et en fait, on constate pas, même pour des personnes qui font des tests de la même montre dans des conditions identiques tous les jours de l'année, on n'a pas de répétabilité des résultats.
Mais est-ce que ça ne voudrait pas dire justement qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu? On l'a dit, les conditions climatiques, les conditions atmosphériques, les orages solaires, les phases de la Lune, enfin tout ce genre de choses qui peuvent paraître parfois un peu ésotériques. On parle parfois d'énergétique, mais est-ce que tous ces facteurs-là ne rentrent pas aussi en jeu dans les interférences qu'il pourrait y avoir dans l'analyse de ces signaux, ou plutôt dans la captation de ces signaux GPS? Parce que l'analyse en elle-même, c'est un ordinateur, et un ordinateur, on le sait, c'est 0 ou 1, donc ça rentre, ça est calculé et ça ressort. Peut-être que finalement, c'est simplement la captation qui n'est pas fiable dû à toutes ces interférences qu'il peut y avoir.
Ouais, alors en fait, les deux erreurs les plus importantes, enfin les deux sources d'erreurs les plus importantes sur la captation d'un signal GPS, c'est en premier la synchronisation d'horloges. Donc on a parlé de ça. Un satellite, il a deux horloges atomiques qui sont intégrées et qui ont une précision au milliardième de seconde, alors qu'une montre GPS avec de l'électronique grand public ne peut pas atteindre un tel niveau de précision. Donc là, on aura une marge d'erreur. Et la deuxième source d'erreur la plus importante, c'est la réfraction des signaux GPS. Donc, admettons que tu es en ville, tu as un grand immeuble tout de vert juste à côté de toi. Le satellite GPS qui est à 20 000 km d'altitude, il va envoyer son signal de manière multidirectionnelle. C'est-à-dire il va envoyer son signal dans toutes les directions. Et le signal, il va arriver directement sur ta montre sur un certain angle. Mais ce même signal, il va être envoyé également sur le bâtiment vert qui est à côté de toi. Le signal va se refléter sur les vitres. Elle va revenir sur ta montre. Et donc, en fait, ta montre, elle va recevoir le même signal deux fois avec une intervalle de temps différente. C'est-à-dire qu'une fraction de seconde plus tard, elle va recevoir le même signal. Et là, elle ne va pas savoir comment le traiter. Est-ce qu'il faut traiter le premier, le deuxième, comment... Enfin, voilà. Et ça va donner un écart de positionnement. Donc, dans les canyons, que ce soit en nature, hein, ça peut se réfléchir sur de la pierre, ça peut se réfléchir sur des feuilles d'arbres mouillées, ou alors sur des environnements qu'on appelle des canyons urbains. Et on aura cette source d'erreur supplémentaire qui va arriver.
Et si je ne m'abuse, on a aussi le même phénomène... dû à la réfraction avec l'eau, non ? Quand on court près d'une rivière ou près de la mer, près de l'océan.
Enfin. Oui, ouais. Ou si tu fais du surf, du stand-up paddle, de la planche à voile ou de la navigation sur un bateau, tu vas avoir à peu près le même problème parce que le signal, il va arriver directement sur ta montre, mais il va aussi arriver de manière détournée en étant... par exemple, hein, en réfraction sur une vague qui est à 15 mètres de toi, et puis ensuite il va revenir vers toi le signal, et ta montre va recevoir le signal 2, 3, 4, 15, 18 fois, et puis va devoir calculer un petit peu de manière savante quel signal il va falloir traiter.
Ben finalement, c'est tout simple. Enfin, je ne comprends pas qu'ils n'y aient pas pensé. Tu prends le premier signal, non ?
Oui, ça, c'est une bonne idée. Maintenant, quand tous ces signaux, ils arrivent en même temps sur l'antenne, c'est comme si je te dis, maintenant, il y a 15 personnes qui vont hurler un mot et tu vas devoir utiliser uniquement le premier mot qui est hurlé. Et en fait, ils vont quasiment tous hurler en même temps des mots différents. Qu'est-ce que toi, tu vas entendre ? Tu vas attendre une cacophonie générale. Tu ne vas pas isoler un seul mot qui va être hurlé autour de toi. Et c'est un peu le même problème qu'il y a sur les antennes GPS. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à identifier clairement quel est le premier message arrivé ou le deuxième, etc. Tu vas recevoir une énorme quantité de bruit que tu vas devoir traiter au mieux, mais ce ne sera pas tout blanc, tout noir.
Alors, tu disais que les montres grand public qui intègrent ce genre d'antennes et de capteurs ne sont pas à même, n'ont pas une précision du même niveau que le matériel professionnel ou même le matériel militaire. Qu'est-ce qui les différencie justement ? Qu'est-ce qui fait que un GPS militaire aura une précision plus importante ? Est-ce qu'il va savoir lui décrypter quelle est la première personne qui a crié le premier mot ? Ou est-ce qu'il va avoir une antenne plus grosse ? C'est toujours une question de taille. Qu'est-ce qui va faire la différence ?
Plus c'est gros, mieux c'est, Hermano.
Ah, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça.
Et en fait, la taille idéale pour une antenne GPS, j'avais lu ça quelque part et je te sors ça de mémoire, mais ça doit être 25 cm de diamètre.
Ah, de diamètre.
Donc, okay. T'arrives à te faire une image de l'antenne idéale. Hein, ouais. Et ensuite, t'essayes d'imaginer une montre à ton poignet qui n'a pas un boîtier de 42 mm comme on aime bien en moyenne dans la taille de nos montres, ou de 46 mm ou peu importe, mais un boîtier de 250 mm.
Ça, c'est que le diamètre de l'antenne.
Oui.
Et quelle est la longueur ? Et puis, intégrer ça dans un boîtier de montre.
Non, mais c'est une antenne circulaire qui fait 25 cm de diamètre. Donc, si tu la mets sur la périphérie de ton boîtier de montre, voilà, ouais. Là, ce sera pas mal pour capter un GPS qui aura les précisions. Donc, si tu restes bien immobile et que tu as au moins 5 satellites d'une constellation visible, on l'a dit, hein, pour GPS c'est 3 mètres, pour Galileo c'est 4 mètres, pour GLONASS c'est entre 5 et 8 mètres, et puis pour Beidou c'est 10 mètres de précision. Donc voilà les précisions que tu peux attendre avec une montre qui aurait une antenne externe de 25 cm. Maintenant, si tu divises par 2 la taille de l'antenne, ou par 10 ou par 15, bah, tu dois augmenter ta marge d'erreur, c'est mathématique.
Mais ça y est, je comprends pourquoi Iron Man, le comics, a une grosse antenne sur le vide, ou même pourquoi le gros bouclier de Captain America. Je comprends mieux maintenant.
Bah oui, parce que s'il doit viser un immeuble et passer par la fenêtre, bah il s'encastrerait dans le mur systématiquement s'il avait une toute petite antenne.
C'est ça. Cet épisode est en train de partir en vrille, Greg.
Mais en gros, c'est vrai.
Ouais, mais mine de rien, tu ne réponds pas à ma question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller contre ce problème de précision? À qui faut-il se fier? Ou alors, est-ce qu'il faut que tous les utilisateurs de ce type d'appareil soient conscients que finalement, bah, pour avoir plus de précision, il vaut mieux courir avec un copain qui a un vélo avec un bon vieux compteur filaire et qui, en plus, va exactement à la même vitesse que vous au même moment?
Alors, maintenant, le GPS, il faut savoir pourquoi on l'utilise, comment et connaître ses limites. C'est un petit peu comme quand on parlait de la fréquence cardiaque avec les cardio-optiques au poignet. Si on connaît les limitations de la technologie, qu'on sait à quoi s'en tenir, on va pas avoir de problème. Et pour moi, le GPS d'une montre doit servir, d'une part, après avoir réalisé une activité, de savoir où on est passé. Et puis d'autre part, si on utilise la cartographie intégrée dans la montre, c'est de pouvoir savoir où on est pour que sur la carte, ça affiche correctement nos données de position. Mais c'est tout. Ça ne doit pas servir à autre chose, le GPS. Et surtout, Hermano, ça ne doit pas servir à indiquer une vitesse instantanée quand on est en train de faire son pacing sur un marathon. Parce que je sais que je parle à un homme qui a vécu cette situation, sinon on se grille.
je ne sais absolument pas de quoi tu parles, Greg, je suis désolé. On renverra nos auditeurs vers l'épisode en question. Non mais plus sérieusement, si je ne m'abuse, et encore une fois c'est toi la caution technique de ce podcast, il y a certaines montres comme l'Apple Watch qui combinent justement le signal GPS et le signal 3G, 4G, enfin le signal de données mobiles. Est-ce que ça pourrait permettre d'avoir une précision des données un peu plus efficace?
Non, franchement, non. Parce que l'Apple Watch, pour avoir testé l'Apple Watch, comparé les performances de son GPS, elles sont de loin pas meilleures que les autres. Et les indications de vitesse instantanée de l'Apple Watch sont pas meilleures que les autres. Et en fait, on parlait des accéléromètres au tout début de cet épisode et on se moquait des accéléromètres qu'on avait au début des années 2000. Mais il faut savoir que la technologie, je me moquais un petit peu parce que je voulais pas parler tout de suite de la précision de ces accéléromètres en introduction de ce podcast, sinon on n'aurait rien eu à discuter. Mais la précision de ces accéléromètres est devenue redoutable. Et maintenant, on a des références sur le marché qui mesure 1 km réalisé sur piste, et j'ai fait ces comparatifs avec des échelles de l'ordre du mètre, c'est-à-dire que sur 1000 mètres que je réalise sur la piste, l'accéléromètre va m'en compter entre 999 et 1001, c'est-à-dire qu'on a 1 pour 1000 de marge d'erreur. On parlait de 5% sur l'acceptabilité de précision du GPS, là on est à 1 pour 1000.
Donc pour ceux qui n'ont pas fait le calcul, 5% sur l'acceptabilité d'erreurs sur le GPS, ça représente 50 pour 1000. Donc on parle de 1 pour 1000 pour un accéléromètre versus 50 mètres sur un tour de piste qui ferait 1000 mètres. C'est juste énorme.
Oui, oui, oui. Et le meilleur du monde actuellement qu'on peut coupler pour de la course à pied, à mon avis, c'est le capteur Stride. Donc il n'est pas seulement un capteur
de
distance et de vitesse. Non, mais sérieusement, la technologie qui est embarquée dans ce capteur est juste démentielle. C'est-à-dire que c'est un capteur de puissance en course à pied que j'ai adopté il y a plusieurs années. Et moi, je continue aujourd'hui à être bluffé par la précision de ce truc parce que pour produire des informations de puissance qui sont précises, le Stride, il doit connaître avec précision la vitesse à laquelle tu vas, la force avec laquelle tu impactes le sol et les variations d'altitude. Donc en fait, ils n'avaient pas le choix. Ils devaient mettre de l'électronique dans ce capteur qui était absolument irréprochable. Et il a des accéléromètres qui vont dans toutes les dimensions et qui sont doublés dans ce truc-là. Et en fait, sa précision en termes de mesure de vitesse instantanée est redoutable et en termes de distance totale d'une activité en course à pied est redoutable. Et puis, on a parlé avant du vélo. Pour moi, il n'y a rien de tel que de mettre un capteur sur sa roue arrière de vélo, de configurer correctement la circonférence de sa roue et puis de plus s'ennuyer avec les virages qui sont coupés par le GPS.
Alors, quand tu parles de capteur sur la roue arrière, tu parles d'un capteur filaire ou là aussi d'un accéléromètre qu'on va mettre sur son moyeu, comme j'ai pu en faire l'acquisition pendant cette période de confinement?
Les deux, franchement les deux. Maintenant, on ne s'embête plus avec un capteur filaire ou On doit tirer un fil entre son compteur et le capteur. Donc toutes ces technologies maintenant fonctionnent sans fil, soit en N+, soit en Bluetooth. Et la plupart des montres ou des compteurs cyclistes supportent au moins une de ces deux normes. Et donc on a une transmission sans fil de données. Et puis, peu importe qu'on ait un aimant sur un des rayons de la roue et puis le capteur qui compte le nombre de fois où il voit l'aimant passer pour savoir le nombre de tours de la roue, ou alors un accéléromètre sur le moyeu de la roue qui compte le nombre de fois où il a la tête en haut et la tête en bas pour savoir le nombre de tours qu'il a fait.
Ouais. Bon, mais est-ce que, à l'instar des problèmes de captation du GPS sur une montre, quand on utilise des capteurs comme ça en Bluetooth ou en ANT+, des capteurs sans fil, on n'a pas aussi un peu d'interférence et on ne pourrait pas avoir, pour le coup, une mesure qui soit plus fiable avec un bon vieux capteur sans fil? Oui, je suis très... même si je suis pour le progrès, je suis aussi très à l'ancienne.
Je pense qu'on a des problèmes dans les deux technologies parce que l'N+ et le Bluetooth, et ça se constate encore plus facilement quand on fait un entraînement sur Home Trainer chez soi, parce que ça utilise les bandes de fréquence de 2,4 GHz qui sont les mêmes que partage ton réseau Wi-Fi chez toi, donc ton réseau informatique. Donc si tu as ton réseau Wi-Fi, que tu as, admettons, quelques accessoires comme une enceinte connectée en Bluetooth, plus 2-3 capteurs, plus ton home trainer, plus ton Apple TV, et puis 2-3 autres gadgets, ça fait vite un gros brouhaha en 2,4 GHz dans ton appartement, et puis il peut y avoir des interférences entre ces différents signaux. Et d'un autre côté... la plupart des capteurs filaires qu'on avait sur nos roues de vélo il y a quelques années utilisaient des signaux analogiques, c'est-à-dire que quand tu passais à côté d'une ligne à haute tension, tout d'un coup ton compteur te disait t'es à 200 km/h parce qu'il captait en fait la fréquence en hertz de la ligne électrique que t'étais en train de passer et plus du tout le nombre de tours de ta roue avant sur ton compteur. Donc les deux technologies ont leurs forces et leurs faiblesses. Maintenant, personnellement, sauf dans le cas que j'ai indiqué un petit peu spécial où tu fais du home trainer chez toi avec un signal Wi-Fi, avec des trucs connectés dans tous les sens, mais sur mon vélo, même dans des cyclosportives où tous les autres autour de toi ont des capteurs, ces données, elles sont numériques, elles sont chiffrées, elles sont codées et elles correspondent que aux capteurs que tu as couplés les uns avec les autres et donc du coup, normalement, il n'y a pas de problème.
Ok. Pour revenir un petit peu sur ces fameux accéléromètres et plus particulièrement le Stride dont tu fais régulièrement l'apologie et notamment dans ta dernière série sur la mesure de la puissance en course à pied, ping, ping, un petit ping encore pour nakan.ch. Je me rappelle il y a quelques années où avec ces footpods, ces capteurs de, enfin ces accéléromètres qui te permettait avant même l'arrivée de nos montres GPS de mesurer ta vitesse instantanée, ta distance, etc., qu'il fallait tout de même, quand tu venais d'acheter ta montre, les calibrer, les configurer, et puis voire même les recalibrer de temps en temps à la manière de câbles de vélo que tu vas resserrer après quelques sorties. Est-ce que c'est toujours le cas ou là maintenant on a vraiment des produits qui sont livrés dans les meilleures conditions et qui ne changent pas d'un iota?
Alors, si tu prends l'accéléromètre de Garmin, de Suunto ou de Polar, qui ont des précisions qui sont peut-être pas aussi impeccables que le Stride, mais qui ont des précisions largement plus acceptables que celles du GPS, celles-là, il vaut mieux les calibrer sur piste, ouais, c'est sûr. Ou sur piste, ou en tout cas sur une distance connue. Maintenant, la plupart des montres GPS proposent une chose, c'est de calibrer le footpod avec les données GPS. Mais... Voilà, je m'attendais à des rires, parce que quand on dit que le GPS a une précision de 5% et que le footpod est plus précis, si on le calibre avec un truc qui a une précision moindre, bah la calibration elle-même ne sera pas bonne. Donc voilà, je recommande de le faire sur une distance connue, idéalement sur piste. Donc sur une piste qui fait 400 mètres, vous mettez dans le couloir 1, parce que si vous mettez dans le couloir 6, vous allez parcourir un peu plus que 400 mètres. Il faudra appliquer un facteur de correction. Mais si vous mettez dans le couloir 1, et que vous faites 2,5 tours, eh ben vous avez parcouru 1000 mètres. Donc vous faites ça, et puis la montre va vous afficher une certaine distance. Et ça va vous donner le facteur à appliquer pour calibrer correctement votre capteur. Maintenant, le Stride, et c'est là toute la magie du Stride, c'est que lui ne nécessite aucune calibration. Et ça a un avantage, c'est qu'il a une précision qui est identique si tu cours en endurance, si tu cours dans des séries ou si tu cours à ton allure compétition. Parce que quand tu fais ton calibrage sur piste, tu vas choisir une allure qui est à peu près le milieu de tes allures que tu fais habituellement. Mais si tu cours plus vite ou moins vite, ta calibration sera moins bonne et donc du coup ta précision sera moindre. Mais le Stride, lui, il a des algorithmes et des capteurs 3 dimensions dans son circuit électronique qui vont corriger ça automatiquement et quelle que soit l'allure à laquelle tu cours. Alors ça marche pas pour la marche à pied. J'ai constaté qu'il faut courir au moins à 5-6 km/h pour avoir une précision qui devient bonne sur le Stride. Mais au-delà, eh bien, la précision que tu cours à 8 ou à 16 km/h, elle sera la même.
Bon, c'est bon à savoir. Je pense que tu auras convaincu bon nombre de nos auditrices et de nos auditeurs. Il va peut-être falloir quand même à un moment demander un coupon à Stride pour régaler nos auditrices et nos auditeurs et puis peut-être toi aussi gagner quelque chose, non ?
Alors, bon, moi je me fiche de gagner quelque chose. Moi je gagne quelque chose si un utilisateur me dit « Franchement, merci de m'avoir conseillé ce truc-là » parce que certes, je l'ai payé un certain montant. Un Stride, c'est de mémoire 250$, donc c'est pas négligeable en termes d'investissement. Mais pour réussir sa performance sur marathon, je pense que c'est plus important d'avoir une montre qui indique quelque chose de précis. Donc prendre une montre moins chère, mais avec un Stride, ce sera beaucoup plus performant que d'avoir une montre très chère, mais qui a un signal GPS qui va avoir 5% d'erreur. Et tout d'un coup, ta montre t'affiche 5-15 au kilomètre. Tu te dis, oulala, je suis pas du tout dans le rythme, j'accélère un peu, mais en réalité, tu étais à 4,50 déjà. Et en fait, ouais, tu vas aller te cramer. Alors que le Stride, lui, il va te donner ton allure réelle, à quel que soit le moment auquel tu regardes ta montre. Parce que le problème, c'est ça. C'est que si ton GPS il a 5% de marge d'erreur sur la durée et la distance totale de ton marathon, tu peux avoir une marge d'erreur qui oscille entre 0 et 20%. Mais quand tu regardes ta montre à un instant T pour fixer ton allure, tu ne sais pas si à ce moment-là ta montre elle est précise à 100% ou seulement à 80%. Et donc du coup, tu peux lui faire confiance à aucun moment. Alors qu'avec le Stride, tu peux lui faire confiance quel que soit le moment auquel tu regardes ta montre. Et ça, c'est génial.
Bon, il faudra quand même qu'on revienne sur quelques épisodes. Il me semble que tu nous conseillais de courir à la puissance et pas à l'allure. Or, tu viens de nous dire justement le contraire. C'est qu'en te basant sur les données de ton Stride, tu cours à l'allure. Ou tu voulais dire, tu cours avec la donnée avec laquelle tu as l'habitude de t'entraîner, que ce soit l'allure ou la puissance, mais pour autant que ce soit une information qui te soit transmise par ton capteur de puissance.
Oui, si on court à l'allure, il faut regarder à l'allure. Maintenant, j'invite les utilisateurs qui décident d'aller, de faire le pas de l'investissement du Stride, pour d'abord des données d'allure, parce qu'on ne va pas transitionner tout de suite sur une nouvelle métrique qui est la puissance en course à pied du jour au lendemain. Mais par contre, s'ils font l'acquisition du Stride en premier lieu pour avoir ces informations qui sont fiables de distance et d'allure, peut-être que pendant une saison et demie, ils vont se baser sur ces informations-là pour faire leur pacing en course. Et si ça leur convient, pourquoi pas rester comme ça ? Mais par contre, je les encourage à se renseigner sur la puissance en course à pied. Et tu l'as dit, j'ai un peu creusé le sujet ces dernières semaines. Donc sur nakan.ch, vous trouvez un dossier thématique sur l'utilisation de la puissance en course à pied, dans lequel j'essaie d'aborder les éléments essentiels pour prendre en main cette donnée. Je trouve que c'est intéressant quand on a un capteur de puissance en course à pied, et bien de commencer à s'intéresser à cette donnée parce qu'elle peut nous apporter quelque chose en plus dans notre entraînement et dans notre pratique de la course à pied.
Je pense qu'on a bien, travaillé sur ce sujet. On avait aussi quand même étudié cet effet de la puissance, alors pas uniquement en course à pied, mais souviens-toi, dans un épisode il y a quelques semaines, on parlait de l'utilisation de la puissance, que ce soit en vélo, en course à pied. Alors en natation, ça me paraît un peu compliqué. Du coup, très rapidement, parce qu'on ne va pas refaire toute la série que tu es en train de faire sur le site, on ne va pas non plus reprendre tous les bons conseils que tu peux disséminer à longueur de journée, mais très rapidement, si on se décide à partir sur une mesure liée à la puissance ou même à utiliser les données qui sont fournies par un capteur Stride, que ce soit sur une montre Garmin ou sur une montre GPS, sur une montre d'une autre marque, comment est-ce qu'on configure ces données-là ? Est-ce que juste le fait de connecter l'appareil va te permettre d'avoir les informations qui vont venir de ce capteur plutôt que du GPS, ou est-ce que c'est une configuration un peu particulière à faire ?
Ça dépend du modèle de montre qu'on utilise. Quasiment tous les modèles du marché actuellement, à l'exception des montres Coros, peuvent utiliser le Stride comme source de données pour la vitesse et l'allure instantanée et la distance totale. Donc ça veut dire que chez Suunto, chez Garmin et chez Polar, on peut configurer le Stride comme étant la source de vitesse instantanée et de distance, et ça prend le pas sur les données GPS. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que du coup, ça veut dire que même si on a le GPS actif garde l'enregistrement de la trace pour qu'on voit où on est passé, c'est le stride qui fait foi au niveau de l'allure instantanée et de la distance. Et ça dépend le modèle de montre qu'on utilise, mais ça se configure en général dans les options du capteur ou alors dans les options de la montre. Enfin voilà, il y a une procédure qui est un petit peu différente pour chaque marque et modèle, mais en général on retrouve ça assez facilement, notamment Stride qui est une base de connaissances assez développée là-dessus.
Ok, super. Bah écoute, merci pour toutes ces précisions. Est-ce que tu voyais d'autres points à aborder sur ce sujet de l'utilisation des données GPS dans nos montres pour nos entraînements ?
Alors, malheureusement, le GPS reste une fatalité pour tous les autres sports qu'on n'a pas abordés. On parlera principalement ici pour les triathlètes de la natation en eau libre. Le GPS est une catastrophe parce que la montre passe 80% du temps sous l'eau, et sous l'eau, les signaux GPS ne passent pas. Donc ça veut dire qu'à chaque mouvement de crawl où le bras sort pendant une fraction de seconde, puis re-rentre dans l'eau, c'est le seul moment où la montre peut acquérir un signal GPS. Donc là, c'est vraiment un environnement qui est hyper challenging, et puis pour le GPS n'est pas optimal, et donc du coup, va fournir une trace qui sera dégradée. Donc là, il y a des gros algorithmes de correction qui sont utilisés. Les montres sont en général vraiment, vraiment peu précises par rapport à ça, donc un conseil, ne vous fiez pas trop aux allures que vous allez faire en eau libre par rapport aux données GPS de votre montre, mais essayez de trouver des repères en eau libre, je ne sais pas, à deux bouées que vous arrivez à mesurer une fois de manière précise, et puis vous calculez le temps que vous mettez entre deux pour faire des tests d'allure. Mais les données GPS, ce n'est pas une bonne idée du tout, quelle que soit la montre ou le modèle, même si maintenant ça devient de moins pire en moins pire, j'oserais même pas dire de mieux en mieux, mais voilà. et donc du coup, voilà, un petit warning, parce qu'en natation, on n'a aucune possibilité d'utiliser un capteur externe qui fournira des données plus précises. Et puis bah, c'est pareil hein, pour de la planche à voile, du surf, du stand-up paddle, enfin tous les sports aquatiques, où par exemple, on n'a pas de possibilité non plus pour du ski de fond, du patinage de vitesse ou ce genre de choses, d'utiliser une autre source de données que le GPS, parce qu'un footpod, quel qu'il soit, est prévu pour de la course à pied, et si vous le mettez sur un ski de fond, il va effectivement vous donner une donnée de vitesse ou de distance, le stride va vous donner quelque chose sur un ski de fond, mais ce ne sera pas des données qui seront cohérentes, parce que ce n'est pas prévu pour ça.
Alors moi j'ai peut-être une solution pour toi par rapport à la nage en eau libre. Je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de tester, mais ce sont ces lunettes de natation connectées de la marque Form. Est-ce que tu connais ?
Oui, alors je suis en train de tester ces lunettes. J'espère sortir d'ici mi-août un test complet sur le site nakan.ch.
Ok, moi je lève la main pour racheter une fois que tu auras fini ton test.
Alors c'est mon propre modèle, donc je vais les garder pour mon entraînement parce que je suis assez conquis par ce modèle. Mais alors par contre, déception, hein, c'est qu'en eau libre, bon pour l'instant le firmware général n'est pas disponible avec les fonctions en eau libre, mais quand ça sera disponible, ça utilisera les données GPS de ta Garmin ou de ton Apple Watch. Dans un premier temps, ça sera configurable avec ces deux types de montres. Et donc du coup, on va de nouveau scoltiner des données GPS.
Ok, donc on va de nouveau s'arracher les cheveux sous l'eau, enfin il va falloir enlever le bonnet d'abord pour pouvoir avoir des données qui nous semblent à peu près cohérentes. Alors, ce qui me pose quand même un problème, parce que en course à pied, on peut très bien se dire, bon ok, on branche la montre, on la retourne, on la met dans la poche, dans le sac à dos, dans le camelback, dans la poche du short ou de la trifonction, tout ce que tu veux, et finalement on analysera ces données qu'une fois arrivé à la fin de la course, sur une paire de lunettes de natation connecté avec un écran qui t'affiche les données en temps réel, je vois mal comment tu peux détourner ton regard si c'est le but pour lequel tu as acheté ce type d'appareil.
Bah, tu peux toujours afficher, pour les données en piscine, ce sera relativement précis parce qu'en fait, il détecte le virage que tu fais. Donc du coup, tu vas avoir des statistiques précises à chaque virage sur tes derniers 50 ou 25 mètres et sur ta distance totale. Et si la détection du nombre de longueurs, qui est relativement bonne hein, sur les lunettes Form de ce que j'ai testé jusque-là en piscine, est correcte, bah, du coup, les données qui sont affichées dans la lunette sont correctes. Et puis en eau libre, ce que tu peux faire, c'est afficher la distance totale, qui sera une distance approximative, et puis la durée écoulée de ta sortie. Par contre, effectivement, ce sera intéressant d'afficher l'allure instantanée, mais je pense que ça va faire des sauts entre 14 minutes au kilomètre et 32 minutes au kilomètre en quelques secondes. Et je me demande comment les ingénieurs de Form vont gérer ça, et puis surtout à quel point ça pourra être utile ou non de l'afficher en temps réel dans la lunette.
Ouais, bon, donc c'est bien la preuve qu'on a encore beaucoup de choses à faire évoluer et que le transhumanisme n'a pas encore réussi, en tout cas pas dans le sport.
Il reste des challenges.
Une conclusion, Greg, peut-être, comme tu sais si bien le faire, résumer en quelques mots tout ce qu'on s'est dit pendant cet long épisode.
Moi, je dirais que le GPS de votre montre n'est pas forcément votre ami. On avait déjà usé d'avertissements par rapport aux données des fréquences cardiaques aux poignets optiques qui sont d'une précision très moyenne sur les montres. Et quand on utilise des algorithmes qui calculent des trucs automatiquement en se basant sur la fréquence cardiaque optique, eh bien on obtient des données qui sont parfois très erronées. Eh bien, faites attention avec le GPS, c'est pareil. Si vous faites un test VMA sur piste et que vous vous basez sur la distance que vous avez faite avec le GPS, il peut vous avoir rajouté suffisamment de mètres ou alors enlevé suffisamment de mètres pour faire varier vos données de seuil ou de VO2 max qui sont calculées par vos algorithmes. Et ça, c'est qu'un des exemples. On a parlé aussi de la fiabilité de l'allure instantanée pour faire son pacing sur une course. Surtout, faites pas cette erreur-là et collez un footpod sur votre chaussure. C'est pas forcément le Stride, même si c'est celui qui est à mon sens le plus précis. Si vous mettez celui de Garmin, qui est peut-être 5 fois moins cher que le Stride, et que vous le calibrez correctement, on en a parlé, et ben vous obtiendrez des données qui seront bien plus précises sur votre pacing instantané par rapport aux données GPS. Donc ne vous faites pas piéger par ça, et voilà, faites attention à ces petits détails.
Ouais, finalement, la conclusion, c'est continuer à faire du sport pour votre plaisir sans rester aliéné à toutes ces petites bestioles auxquelles on s'accroche quand on veut soi-disant performer dans nos entraînements et dans nos compétitions.
Mais il faut se libérer la tête et il ne faut pas se concentrer tout le temps sur sa montre. Mais je pense qu'il y a des moments pendant lesquels c'est important aussi de bien gérer ses allures. On en a parlé avec Denis, hein, de s'entraîner dans les bonnes zones et aux bonnes allures et aux bonnes intensités, c'est important. Et là, c'est important d'avoir une montre. Mais ça ne sert à rien d'avoir une montre qui dit n'importe quoi. Si c'est pour faire n'importe quoi, bah, autant y aller au feeling. Là, tu as tout à fait raison. Mais si on veut vraiment faire quelque chose de rigoureux, bah, il faut des données qui sont rigoureuses et il faut savoir les limites de chacune des technologies. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là aussi dans le podcast Hermano. C'est pour prêcher la bonne parole et puis donner les avertissements qui sont de rigueur dans ce genre de situation. Et le GPS n'est pas forcément votre allié, il peut aussi être un ennemi suivant la manière dont vous l'utilisez.
Je confirme. Bah, écoute, Greg, merci beaucoup pour cet épisode encore d'une très, très grande qualité. Juste avant de se quitter, je voudrais, comme d'habitude, faire des remerciements à tous ceux qui nous laissent des commentaires sur Apple Podcast. Ça nous permet de nous faire connaître, de remonter dans les rankings et puis aussi de montrer à ceux qui découvriraient notre podcast que l'on arrive à diffuser la bonne parole relativement aux beaux commentaires qui sont laissés. Évidemment, on vous invite, vous aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller laisser une note, j'espère 5 étoiles, une revue sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rentrer en contact avec nous, nous poser toutes vos questions. Alors, Greg n'est pas super au top en ce moment avec le WhatsApp est sur le site.
Je vais te dire quelque chose, Hermano, par rapport au WhatsApp, c'est que j'ai un grave problème avec le téléphone WhatsApp du podcast. Et malheureusement, je m'excuse platement auprès des utilisateurs qui nous ont laissé un message au cours des dernières semaines sur le WhatsApp parce que je n'arrive plus à accéder au WhatsApp qu'on avait mis en place. Donc, il faut qu'on mette à jour la page de contact du site. Ce sera fait au moment où cet épisode sera diffusé. Et puis, proposer d'autres canaux de conversation. Je vais essayer de trouver un plugin à mettre dans notre site web pour laisser un message vocal directement depuis la page web. Mais en tout cas, le mail ou autre chose. Mais malheureusement, le WhatsApp, je dois dire que, et j'en assume l'entière responsabilité, j'ai plus accès.
Bon, en tout cas, il reste Instagram, il reste Facebook, il reste Twitter, il reste tous les moyens que vous savez toujours utiliser pour nous contacter. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à revenir vers nous. Merci encore, Greg, pour ce superbe épisode.
Mais merci à toi.
Merci à toutes et à tous pour votre patience et votre fidélité. Et on vous dit à dans 15 jours pour un nouvel épisode où on parlera, pas cette fois-ci de GPS, mais en tout cas de positionnement et de route, toujours.
Oui, mais dans un esprit un peu plus humain, il n'y aura plus de théorie de la relativité.
Non, d'ailleurs, je suis un peu déçu, on aurait pu finir cet épisode par une citation d'Einstein, mais ok, tu as juste voulu commencer et pas terminer avec Einstein, donc très bien, je note.
Alors j'en ai une si tu veux, hein. C'est qu'il n'existe rien de plus gros, de plus coûteux, de plus dangereux qu'une centrale nucléaire pour faire bouillir de l'eau. Voilà. Citation d'Albert Einstein. Voilà, sur ce, très très bonne semaine. À dans 2 semaines pour un prochain épisode du podcast.
Merci Greg, ciao.